géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le spectre de la fin du multilatéralisme est brandi à chaque crise depuis quelques années. À croire que les nouveaux défis mondiaux n'ont plus de réponse collective qui puisse leur être apportée. Est-ce à dire que le multilatéralisme a perdu de son efficacité ou plutôt que les grandes puissances lui préfèrent l'unilatéralisme? Concertation pacifique entre au moins trois États dans un cadre défini en commun. Le multilatéralisme, phénomène central des relations internationales, connaît aujourd'hui une crise multidimensionnelle, reflet d'un monde en miettes. Crise des alliances traditionnelles entre États, regain des compétitions de puissance. Le multilatéralisme a-t-il encore un avenir? À l'occasion de la parution de Nations désunies, la crise du multilatéralisme dans les relations internationales qui vient de paraître aux éditions du CNRS collection Biblis, nous recevons Bertrand Badie, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Puissance mondialisée, chez Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Vincent Olyndre, qui a donc co-dirigé Nations désunies. Jean-Vincent Olyndre, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Paris Panthéon-Assas, co-directeur de l'annuaire français des relations internationales du Centre Thucydide et directeur scientifique de l'IRSEM. Bonjour.
Bonjour.
Des traités multilatéraux de moins en moins nombreux et qui se cantonnent souvent à des engagements purement déclaratoires, comme ce fut le cas pour la COP21, ou d'autres qui semblent en panne, comme le système de l'Organisation mondiale du commerce, unilatéralisme des grandes puissances, certaines refusant de participer aux traités multilatéraux ou aux juridictions à vocation universelle, voire les combattant ouvertement, comme le statut de Rome et la Cour pénale internationale pour les États-Unis. Les Nations Unies ont eu un poids certain dans l'avènement du multilatéralisme contemporain, la gestion de la pandémie de la Covid-19 et aujourd'hui la guerre en Ukraine et l'incapacité de l'ONU à organiser une réponse collective dans le premier cas, à stopper le conflit dans le second, est-elle l'expression de cette crise, voire de la fin du multilatéralisme? Jean-Vincent Olyndre.
C'est la fin d'un certain multilatéralisme. C'est-à-dire que le multilatéralisme dont on parle, c'est une séquence qui commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le multilatéralisme se construit sur les décombres de ce monde des guerres du XXe siècle qui a signé la fin de l'équilibre des puissances, d'un monde westphalien qui était déjà mort en réalité avec la Première Guerre mondiale. Et en quelque sorte, les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, l'organisation universelle, multilatéralisme universel, à vocation universelle, se construit sur cette base avec évidemment une domination des puissances occidentales tempérée par la Russie et la Chine et avec un certain blocage déjà au moment de la guerre froide, du fait justement de l'affrontement entre ces deux blocs que constituaient en particulier l'URSS et les États-Unis. Et au fond, le multilatéralisme a fonctionné, disons, correctement dans une parenthèse qui était celle des années 90. Hein, il faut se souvenir qu'au moment de la guerre froide, il y a eu évidemment des combats onusiens, notamment par rapport à la décolonisation, qui ont une certaine portée. Mais au fond, il y a toujours eu une difficulté qui était liée aux conditions de la naissance du multilatéralisme. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est cette crise qu'on évoque, c'est un symptôme, en réalité, de recomposition majeure qui s'opère, de nouvelles compétitions de puissance, bien sûr, mais aussi d'une incapacité de ce système-là, dominé par des puissances occidentales contestées aujourd'hui, de plus en plus, à commencer par la Russie et la Chine, ces deux puissances qui disposent du droit de veto, donc puissances contestées, et donc qui conduit à non seulement un renouveau de ce blocage, comparable à celui qu'on observait au moment de la guerre froide, depuis la guerre en Syrie, en réalité, c'est pas la guerre en Ukraine qui constitue à cet égard le moment de rupture, c'est la Syrie. Et voilà, et aujourd'hui, la guerre en Ukraine, finalement, fait apparaître cela, mais avec tout de même sans doute une impuissance des Nations Unies dans le contexte de la guerre en Ukraine, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais aussi une sorte de résilience, ou en tout cas de capacité de certaines organisations multilatérales, en l'occurrence l'OTAN par exemple, construite autour de la puissance américaine, qui parvient, à la faveur de cette crise, à en quelque sorte ressusciter, alors qu'on la disait en état de mort cérébrale. Donc il y a à la fois une amplification de la crise du multilatéralisme liée à cette remise en cause de la domination occidentale et en même temps une capacité de ces puissances à résister, mais à l'échelon soit régional, l'Europe. Aujourd'hui, l'Union européenne est en quelque sorte aussi revivifiée par, si j'ose dire, par ce drame et cette guerre. Et puis l'OTAN, bien sûr, qui se retrouve dans une situation moins mauvaise, en tout cas qu'elle ne l'était avant la crise en Ukraine.
Bertrand Badie.
Oui, moi je partage assez largement cette analyse qui a le mérite de partir d'une évidence, c'est-à-dire que les Nations Unies, le système onusien, a été créé en 1945 dans un contexte qui n'a absolument rien à voir avec ce que nous connaissons actuellement. En 1945, parler de changement climatique n'aurait eu absolument aucun sens, on n'y songeait même pas. Parler de sécurité globale, même chose, de sécurité sanitaire, de sécurité alimentaire, de développement même, tout ceci effectivement ne faisait pas sens. Le monde a changé depuis. Mais j'accentuerai même le trait en disant peut-être un certain nombre de choses. Premièrement, il faut voir que 1945, c'est le zénith de la puissance. Mmh. C'est le moment où la puissance a gagné à travers cette victoire. Alors, des États-Unis et de l'Union soviétique, du côté de Washington, on disait des États-Unis, du côté de Moscou, on disait de l'Union soviétique. Enfin, victoire claire de la puissance et vertu de la puissance, puisque cette puissance venait d'écraser par n'importe qui le monstre nazi. Et ce qui s'est produit en 1945, c'est qu'on a construit un multilatéralisme qui, dans le fond, n'en était pas vraiment un, puisque le propre de ce multilatéralisme était d'abord de ne pas toucher à la souveraineté des États. Et là, c'est tout le problème qui ressurgit aujourd'hui, on y reviendra probablement, mais surtout de donner une sorte de licence à cinq d'entre elles. Mmh. C'est-à-dire, à travers le droit de veto accordé aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité, apparaissait l'idée que les puissances consacrées avaient de fait la possibilité de s'émanciper, sinon de la loi commune internationale, en tous les cas d'un ordre international multilatéralement dessiné. Et ceci a été à l'origine de beaucoup de blocages. Jean-Vincent Lindre citait un certain nombre, mais je crois que ces blocages ils sont intervenus encore plus tôt. Il ne faut pas oublier, par exemple, que le conflit israélo-palestinien qui a traversé toute cette période, puisqu'il apparaît presque aussitôt après la création du système onusien, a conduit les États-Unis à opposer 43 fois leur veto sur toute résolution qui commençait à trouver un début de solution. Et effectivement, l'URSS en a fait un large usage. En fait, un usage plus procédurier que de fond. C'est ça qui est intéressant. En revanche, la Russie d'aujourd'hui, elle ne se gêne pas. C'est-à-dire à bloquer toutes les résolutions concernant en particulier ce conflit extrêmement meurtrier de la Syrie, effectivement. Et puis, aujourd'hui, de l'Ukraine. Mais pour ouvrir ce débat, je voudrais quand même que s'allume une petite lampe d'espoir pour nos amis auditeurs. Ça, c'est l'ONU dont on parle communément. C'est celle qui nous vient spontanément à l'esprit. Mais la richesse du livre qui nous réunit aujourd'hui est de montrer qu'il y a quantité d'autres ONU qui méritent hommage et qui ont eu un rôle extrêmement positif, notamment dans ce que le grand Kofi Annan appelait le multilatéralisme social. C'est-à-dire l'OMS, injustement décriée, enfin même si maintenant les critiques se font un peu plus sourdes, mais le Programme alimentaire mondial, qui a quand même eu le prix Nobel de la paix il y a un an et demi, mais l'UNICEF, mais le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat aux réfugiés, c'est-à-dire, c'est intéressant, des institutions, des agences onusiennes qui ne sont pas interétatiques, même si elles restent sous la surveillance des États, et qui n'ont pas un projet de puissance, mais tout simplement un projet de protection et de développement. Et on peut avoir un regret, c'est que lorsque les Nations Unies ont été créées en 1945, elles comptaient 51 membres. Aujourd'hui, elles en comptent 193. Entre-temps, il y a eu la grande vague de décolonisation, qui a fait que le système onusien n'était plus un système quasiment nordiste qu'il était en 1945, mais un système réellement universel. On aurait pu espérer, à l'occasion de cette décolonisation, que les institutions viennent à se réformer, parce qu'on ne gouverne pas une planète complète, ce qui est le cas d'aujourd'hui, comme on gouvernait un petit monde, je dirais, euro-américain, comme en 1945. Or, qu'est-ce qu'il y a eu comme réforme avec la décolonisation ? La création d'institutions nobles, comme la CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, et surtout le PNUD, pour qui j'ai un véritable culte, le programme des Nations Unies pour le développement, mais à part ça, rien d'autre. Alors que ce multilatéralisme social, tellement souhaité par Kofi Annan, homme du Sud, aurait pu effectivement nous convaincre de la possibilité de progresser autrement que par ce dialogue, allez, disons-le, qui confine au ridicule entre les membres permanents du Conseil de sécurité. Du ridicule parce que pas du tout en prise avec la réalité de ce monde tel qu'il est aujourd'hui.
Alors dialogue, justement, on estime que ce dialogue, il a atteint un degré de pauvreté absolument édifiant, hein, le dialogue entre les cinq pays membres du Conseil de sécurité, où on voit, c'était quand même l'occasion de la guerre en Ukraine, a montré finalement des noms d'oiseaux qui ont été échangés entre les uns et les autres. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que finalement, jamais le fossé n'a été aussi important entre les cinq membres permanents du Conseil supérieur des Nations Unies. Bertrand Badie n'est pas tout à fait d'accord.
Alors, rappelez-vous la chaussure de Khrouchtchev, c'était quand même pas triste. Hein. L'ambiance de la guerre froide n'a rien à envier à ce que nous connaissons aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose qui a toujours existé, qui a complètement gelé le dialogue et la recherche constructive de la paix, c'est ça le problème.
Alors, bon, effectivement, mais c'était aussi à une autre époque. On était censé, après la chute du mur de Berlin, 1991, l'effondrement de l'URSS, eh bien, avoir peut-être ouvert une nouvelle page. La question qui se pose, c'est est-ce que finalement, les trois puissances, États-Unis, Chine, alors Russie, est-ce qu'elles n'ont finalement jamais été plutôt assez défavorables, dans le fond, au multilatéralisme qu'elles étaient censées défendre, Jean-Vincent?
Je ne sais pas si elles sont défavorables. Ce qui est certain, c'est que le multilatéralisme onusien, le système onusien, est une forme de compromis entre la nécessité d'une coopération à l'échelle mondiale, multilatérale, et la reconnaissance des puissances établies. Et le problème, en réalité, aujourd'hui, c'est pas que les puissances ne croient plus dans le multilatéralisme. À vrai dire, c'est une question qui me semble secondaire. Ici, le problème, c'est que, et ça rebondit sur ce que disait à l'instant Bertrand Badie, c'est que le rapport de force n'est plus le même et que d'autres acteurs sont entrés dans le jeu, en particulier au Sud, et qu'on ne pourra pas, en effet, indéfiniment ne pas en tenir compte. Et en même temps, précisément, ces puissances qui disposent du droit de veto, elles ne vont pas, de leur plein gré, si j'ose dire, renoncer à leur puissance. C'est tout le problème. Et qu'il faudra sans doute, et c'est souvent ce qui s'est opéré dans l'histoire, et c'est très regrettable, mais une crise majeure ou une guerre majeure pour qu'il y ait une recomposition. C'est ce qui s'est passé au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est ce qui s'est passé au lendemain, si on remonte encore plus loin, au lendemain de la guerre de 30 ans avec la paix de Westphalie, c'est ce qui s'est passé au lendemain des guerres napoléoniennes avec le congrès de Vienne, etc. Qu'on parle d'ailleurs de multilatéralisme ou de d'accords ou de traités ou de paix différentes qui ne sont pas nécessairement multilatérales. Et donc il est là le problème et même le tragique de cette histoire, c'est qu'au fond, il y a non seulement une recomposition des puissances, mais qui conduit à une forme de doute sur la capacité de ces organisations à être effectives. On le voit aujourd'hui avec l'ONU, c'est-à-dire avec M. Guterres, c'est-à-dire la parole de l'ONU aujourd'hui peu crédible. C'est une parole qui dénonce, qui peut agir effectivement. Là, on le voit quand même tout de même en Ukraine avec l'évacuation des civils à Mariupol, où il y a eu un rôle effectif de l'ONU. Mais sur le plan du système lui-même, il est évident que la parole, l'autorité de la parole de M. Guterres est évidemment en cause. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée développée par Bertrand Badie, selon laquelle, au fond, il y a un multilatéralisme au concret, à travers un certain nombre d'agences qui fonctionnent, où vous avez, pour le coup, ces personnes qui travaillent, ces professionnels du multilatéralisme, ils y croient. Et ils agissent avec efficacité, avec dévouement et avec, avec des vrais effets. Le problème, il est structurel. Le problème, il est systémique en réalité, à la fois du fait de cette recomposition des puissances et du fait aussi que ces valeurs occidentales, ces principes, disons, libéraux, pour faire simple, qui ont présidé à l'élaboration de multilatéralisme, aujourd'hui ont du mal à percer encore, d'autant que vous évoquiez les États-Unis, voilà, le Royaume-Uni, etc., ces puissances démocratiques qui sortent, ou la France, qui sortent de 20 ans d'intervention militaire, leur parole est d'autant plus en cause...
En Irak et en Afghanistan.
Voilà, elle est d'autant plus en cause que le bilan de ces opérations est tout de même pour le moins mitigé et qu'il y a une forme de décalage, en particulier s'agissant des États-Unis, entre la parole et les actes aussi. C'est-à-dire que les Russes et les Chinois ont beau jeu aujourd'hui de dire bah « Attendez, vous voulez continuer à nous donner des leçons alors que vous-même, vous avez une attitude insincère et qui n'était pas irréprochable. » Et ça, il faut l'intégrer. C'est, il ne faut pas s'auto-flageller en tant qu'occidentaux pour dire « Nous avons été mauvais et nous devons faire pénitence. » On doit simplement tenir compte de la réalité et à un moment donné, effectivement, ouvrir le jeu multilatéral au Sud et tenir compte des expériences ratées des interventions militaires. Ça, c'est un élément important qui explique aussi l'attitude aujourd'hui de la Russie, de Poutine, par exemple, sur la guerre en Ukraine. Il y a une forme de mimétisme entre l'intervention de 2003 unilatérale en Irak de la part des Américains, et puis l'intervention unilatérale des Russes aujourd'hui en 2022, en leur disant ben, « nous aussi nous sommes capables », ce qui est relatif, ils se rendent compte que c'est très compliqué, à l'image de ce que les États-Unis ont vécu, mais en plus, ils disent ben « voilà, vous n'avez pas à nous donner de leçons, puisque vous-même, vous n'avez pas été, je dirais, conforme aux valeurs que vous défendez ». Et ça, ça constitue un élément à prendre en compte dans la reconstruction, la recomposition nécessaire du multilatéralisme.
Alors, il y a plein de sujets qu'on abordera, bien sûr, et le temps passe affreusement. Il nous reste 2 minutes 30 avant la fin de cette première partie d'émission. Bertrand Badi, la question... Alors, on a bien compris, vous l'avez souligné l'un et l'autre, Jean-Vincent Olindre et vous-même, sur le rôle très concret, très précis des agences thématiques de l'ONU, avec une efficacité qu'on ne retrouve pas au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. L'actuel débat autour d'une réforme du droit de veto, vous le voyez de quelle façon, Bertrand Badi ?
Je le vois en 10 secondes. C'est-à-dire que, de toute façon, ce n'est pas possible. Puisque les modes de réforme, de révision de la Charte des Nations Unies impliquent un vote du Conseil de sécurité et l'unanimité des membres permanents. Donc si on abolit le droit de veto, eh bien les titulaires du droit de veto opposeront leur veto à cette abolition, si vous me suivez bien. Ça veut dire quelque chose quand même de très fort. C'est que le monde a muté, parce que figurez-vous que le monde change. Et le système onusien repose entièrement sur la conception d'une sécurité nationale. Et que donc la sécurité collective dépend de l'équilibre entre les sécurités nationales. Or aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Ça l'est partiellement sur certains dossiers, mais fondamentalement, le monde a muté parce que le monde est devenu systémique. Que la sécurité de chacun dépend de la sécurité de tous. Alors évidemment, on peut plaider l'exception ukrainienne ou la résurgence du conflit ukrainien, mais si vous regardez les grands foyers de conflits dans le monde, Moyen-Orient et Afrique, vous voyez à quel point ils sont liés à cette sécurité globale. Insécurité économique, alimentaire, sanitaire, climatique. L'importance de la question climatique comme génératrice de cette insécurité collective. Et là, effectivement, la délibération nationale, qui est à la base du système onusien, ne peut en aucun cas répondre à cette demande nouvelle. Donc, où il faut s'appuyer sur ce qui existe, ce que j'appellerais le bon cholestérol onusien, à savoir ces institutions spécialisées, pour les faire grossir et leur donner une responsabilité, où il faut complètement réformer le système, mais réformer le système avec l'article 104 de la charte qui prévoit une révision entièrement entre les mains des grandes puissances, c'est quelque chose d'absolument impossible. Donc, il faut jouer cette carte modeste. C'est ce qu'a joué Kofi Annan. Relisez la déclaration du millénaire, il le dit explicitement. Il avait compris qu'il était prisonnier de la puissance et que s'émanciper de la puissance consistait à partir de l'autre bout, c'est-à-dire du bout des sociétés.
On vous retrouve, Bertrand Badi, avec Jean-Vincent Olindre après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
regard sur le multilatéralisme à l'occasion de la parution de Nations des Unies, la crise du multilatéralisme dans les relations internationales qui vient de paraître aux éditions du CNRS Collection Biblis et co-dirigée par Jean-Vincent Olindre et Julien Fernandez. Jean-Vincent Olindre qui est professeur de sciences politiques à l'Université Paris Panthéon-Assas, co-directeur de l'annuaire français des relations internationales du Centre Thucydide et directeur scientifique de l'IRSEM, et Bertrand Badie, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier Puissance mondialisée chez Odile Jacob. Jean-Vincent Olindre, quel regard portez-vous sur l'attitude des États au regard de la question ukrainienne? J'aimerais peut-être à ce stade de l'émission que l'on aborde la question de la Chine. On avait pensé à une possible posture diplomatique. Or, ce que l'on voit de la part de Pékin, c'est beaucoup de prudence, pas de rôle de médiateur. Qu'est-ce que cela nous dit finalement de la puissance de la Chine à l'international aujourd'hui?
La Chine s'impose comme l'une des très grandes puissances, peut-être la première puissance, et elle le fait en ne souhaitant pas s'engager militairement, comme l'ont fait les puissances occidentales dans la séquence des 20 dernières années qui vient de se dérouler, qui continue jusqu'à un certain point, et comme le fait aujourd'hui la Russie, avec un résultat à l'heure actuelle mitigé. Et elle est dans une position consistant à dire que l'ingérence ne doit pas constituer sur le plan militaire une ligne en politique étrangère, ce qui ne l'empêche pas sur le plan économique d'investir massivement et d'avoir plus qu'une influence, notamment en Afrique par exemple. Donc sa position, elle est très simple, c'est de maintenir ses équilibres sur le plan économique. Hein. Peut-être que la crainte de la Chine, c'est que les sanctions aient indirectement des effets néfastes sur sa stratégie sur le plan économique. Elle souhaite évidemment maintenir ce partenariat, elle l'a rappelé, avec la Russie, puisqu'il y a tout de même un axe Chine-Russie, en dépit d'oppositions qui peuvent exister, il y a tout de même cet axe-là, qu'elle souhaite le maintenir tout en ménageant là aussi ses partenaires occidentaux pour des raisons qui tiennent à des facteurs économiques. Donc la Chine n'a aucun intérêt à s'exposer, et je dirais même que c'est précisément parce que la Chine ne s'est pas exposée sur le plan militaire tout en investissant massivement sur le plan des hautes technologies, de l'économie, etc., qu'elle est parvenue à s'imposer pendant que les puissances occidentales s'épuisaient sur le plan militaire et sur le plan aussi économique face aux interventions militaires et face aux différentes crises financières, etc. Donc la Chine a tout intérêt à maintenir cette ligne consistant à être une puissance globale par le biais la construction d'infrastructures, les nouvelles routes de la soie, par le biais d'investissements massifs dans des points stratégiques, à Djibouti par exemple, où précisément elle a installé une base militaire tout en disant « mais non, nous ne s'installerons jamais de base militaire, il n'y aura jamais de base militaire à Djibouti », puis du jour au lendemain, il y avait une base militaire à Djibouti, non pas pour utiliser la force, mais pour évidemment constituer une menace potentielle. Donc voilà, la Chine est dans cette espèce de jeu mêlant la puissance et l'influence, tout en ne mettant pas en œuvre une stratégie interventionniste sur le plan militaire.
Mais sans avoir une stratégie interventionniste, précisément cette possible posture diplomatique à laquelle on a pensé un temps concernant la Chine, Bertrand Badie, est-ce que Pékin n'aurait pas eu beaucoup à gagner ?
N'en parlez pas au passé, parce que l'histoire est loin d'être finie. Je crois que c'est en même temps complexe et assez lisible. C'est-à-dire qu'on voit bien comment jouent dans la politique étrangère chinoise les deux rationalités qui font son identité. Une rationalité politique qui fait que Pékin n'est pas tellement triste de voir que deux pôles rivaux sont en train de s'affaiblir. C'est-à-dire, c'est une position commode que de compter les coups entre l'Occident qui en prend et la Russie qui en prend également. Vous savez, il y a ce vieux complexe de Pékin par rapport à Moscou, l'humiliation subie maintes fois par la Chine face à l'URSS de l'époque, lorsque en 1950, Mao Tse-Kung, triomphant, est allé rendre visite à Staline et que celui-ci l'a fait attendre 3 jours dans une datcha avant de le recevoir. Donc il y a un sentiment de reconquête, que les deux ensembles, russes et occidentaux, s'affaiblissent dans cette partie d'affrontement intéresse la Chine. Et c'est la raison pour laquelle on la sent discrète, passive, dans un premier temps. Mais la Chine, comme le disait Jean-Vincent Olindre, c'est aussi un acteur de la mondialisation, c'est de tous les acteurs celui qui a le plus profité de la mondialisation. Ce qui veut dire que la Chine est dépendante du système économique global. Et ce qui veut dire que nous ne sommes pas face à un conflit classique, c'est-à-dire uniquement politico-militaire. On voit bien que la puissance militaire russe, ça n'a pas marché face à la société ukrainienne. C'est déjà un premier indice. Mais on voit surtout que les Occidentaux réagissent, certes, par l'envoi d'armes, par différents types de soutien politico-militaire à Kiev, mais surtout agissent par cette carte nouvelle qu'il va falloir explorer, sur laquelle il faudra méditer, qui est la carte de l'exclusion. Si tu ne te tiens pas tranquille, on te vire du monde. C'est-à-dire pas seulement de l'économie mondiale, mais aussi de la culture mondiale, des médias, du sport, de tout un tas de choses, n'est-ce pas ? Et là, nous sommes en face d'un phénomène systémique, c'est-à-dire que ce jeu de menaces, cette dissuasion nouvelle, a un effet systémique sur tous les pays du monde. Et si on n'arrête pas cette dynamique, c'est le système global qui va en souffrir. Les pays du Sud, dont personne ne parle jamais, là-bas, l'Afrique, personne n'en parle jamais, alors que c'est probablement elle qui paiera l'essentiel de la note. Mais d'une façon générale, la Chine a tout à souffrir d'un affaiblissement de l'économie mondiale et je dirais du système monde. Et c'est là, effectivement, que en jouant sur le temps, parce que la Chine n'est pas pressée, n'a pas cette vision court-termiste qui domine autant à Moscou qu'à Washington, je pense qu'elle aura matière à intervention. Mais attention, cela, ça veut dire que la grammaire des relations internationales a changé. Rien ne me désespère plus que d'entendre parler d'une alliance entre Moscou et Pékin. Cette alliance, elle n'existe pas. Le mot « alliance » n'existe pas dans le lexique chinois. Et la longue politique étrangère de cet État multimillénaire n'a jamais inclus quelque forme d'alliance que ce soit. Des liens de vassalité, des liens peut-être de compétition, certes, mais l'alliance, je n'en connais pas dans l'histoire. Et justement, toute la finesse de la Chine, c'est d'avoir compris que le temps des alliances pérennes est dépassé. Mon léger désaccord avec Jean-Vincent Lin, c'est sur cette idée que l'OTAN est en train de se revigorer. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que l'OTAN est une impasse dans le conflit actuel. Et on le voit chaque jour davantage. Et on voit notamment quelque chose de très très important qui est en train de se profiler, c'est que les alliances faisaient sens dans un contexte de bipolarité où deux camps se faisaient face, mais elles sont contre-indiquées dans un système où un bloc veut se survivre à lui-même face à un État qui n'est plus un bloc et qui voit ces résurgences d'alliances comme une forme de menace qui le pousse à la surenchère et non à la dissuasion. Et ça, Pékin l'a parfaitement intégré. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez Pékin alors faire des choses qui, pour un occidental, est incompréhensible. Que le ministre des Affaires étrangères, M. Wang Yi, reçoive le Mollah Baradar au moment où les talibans gagnent le pouvoir à Kaboul. Que la Chine négocie avec quantité d'États du Moyen-Orient qui ne lui ressemblent absolument pas, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, tout un tas d'accords qui ne sont pas des alliances. Ce n'est pas une alliance entre Téhéran et Pékin ou entre Riyad et Pékin. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est un jeu très pragmatique, je dirais, de connivence opportune. Et c'est ce monde-là qui est en train de se dessiner au moment où, se croyant encore au XXe siècle, Stockholm et Helsinki viennent frapper à la porte de l'OTAN, on croirait relire Tintin.
Connivence opportune. Jean-Vincent Hollande, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Bertrand Badi? Beaucoup de choses, bien évidemment. La question des sanctions avec la carte de l'exclusion et finalement ces sanctions, là aussi, contribuent à cet affaiblissement du multilatéralisme dont nous parlons depuis le début de cette émission. Jean-Vincent Hollande.
Quand je dis que l'OTAN s'est revigorée, c'est qu'elle continue à attirer alors qu'on envisageait sa désunion et même le retrait à un moment donné, au moment où M. Trump, ou Trump, comme disait Bertrand Badi lorsqu'il parlait de Donald Trump, lorsque Donald Trump était président, on envisageait véritablement une déconstruction de l'OTAN. Et aujourd'hui, c'est loin d'être à l'ordre du jour parce qu'on voit clairement, les États qui y adhèrent aujourd'hui voient une utilité concrète à y adhérer. Pour autant, je rejoins, en tout cas au moins partiellement, Bertrand Badi sur le fait que, en effet, cette logique des alliances est délétère au sens où elle précède la plupart du temps les conflits de grande ampleur. Hein. Souvenons-nous que ce qui a présidé à la Première Guerre mondiale, ou en tout cas ce qui l'a précédé, c'est un jeu d'alliances, précisément. Donc j'entends bien le discours de Bertrand Badi qui est tout à fait pertinent à cet égard, et qu'il y a lieu de s'inquiéter, d'une certaine façon, du renforcement de l'OTAN, avec l'idée que ce monde occidental a le sentiment de perdre la main, et donc, à partir de là, se rassemble pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Donc ça, c'est un élément. Et effectivement, la Chine n'envisage pas le monde en termes d'alliance. Elle l'envisage en termes d'accords, d'influence, d'opportunités à saisir. Ce qui, d'ailleurs, est un discours qui parle beaucoup aux pays du Sud et aux pays du Moyen-Orient, en Afrique jusqu'à un certain point. Moi, j'entends beaucoup auprès de mes étudiants africains, par exemple, ce discours consistant à dire eh ben, les Chinois, eux, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Il y a véritablement un jeu, pour reprendre une formule qu'on observe beaucoup en Afrique, qui relève de la rhétorique chinoise, en réalité, le gagnant-gagnant. Hein. Mm. Cette idée que, ben oui, contrairement à ce qui s'est passé dans la période coloniale et ce qui a suivi la période coloniale, on n'est pas dans l'empire qui gagne et le colonisé qui perd, on est dans une logique qui est plus symétrique et qui est plus équitable. Et ça, c'est vrai que c'est un élément d'affaiblissement des puissances occidentales dont le discours porte de moins en moins dans ces pays. La France a perdu beaucoup de terrain en Afrique, sans doute parce qu'elle n'a pas adopté la bonne posture, mais aussi parce que les Chinois, eux, ont adopté un discours qui leur parle davantage. Et ça, il faut l'entendre, en effet. Et que cette logique, en effet, des alliances est sans doute en train, non pas de disparaître, puisque précisément, elle réapparaît peut-être pour le pire, mais elle coexiste avec ces effets d'opportunité, avec cette globalisation économique et avec cette extension du spectre stratégique. Hein. C'est-à-dire que le conflit, aujourd'hui, n'est plus seulement militaire, il est aussi commercial, économique, etc. Et que la Chine ne cherche pas des alliés, elle cherche des vassaux.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Bertrand Badi, affaiblissement du multilatéralisme, voire davantage, je ne sais pas, qu'est-ce que cela veut dire pour la mondialisation ?
Vous savez, le mot mondialisation, même si les historiens nous expliquent que c'est y a rien de nouveau, etc., un historien dit toujours qu'il n'y a rien de nouveau. Mais la réalité de la mondialisation telle que nous la connaissons aujourd'hui était totalement ignorée au moment où le système onusien a été créé. D'où, effectivement, ce hiatus que nous constatons aujourd'hui. C'est-à-dire, en 1945, c'est le rapport de puissance qui faisait la loi, point. Il n'y avait rien d'autre. Bon. Maintenant, c'est infiniment plus compliqué. Et c'est pas seulement, comme on le croit trop facilement, le fait de la transformation des économies et la construction d'une économie globale, parce que là, les historiens ont raison de nous dire, écoutez, ça existait depuis un certain temps. C'est parce que nous avons affaire à un système international inédit en cela qu'il est devenu totalement inclusif. C'est peut-être la première caractéristique de la mondialisation. Regardez les systèmes internationaux qui se sont succédés pratiquement jusqu'en 1989, en tous les cas, jusque dans les années 60. C'était un système euro-nord-américain. Et le reste ne comptait pas. Bon, il y avait un début de réveil de l'Asie, mais enfin qui n'est devenu effectif que dans le dernier quart du XXe siècle. Maintenant, nous avons affaire à un système international qui n'est plus caractérisé par l'équilibre de puissance, mais par le déséquilibre structurel. C'est-à-dire entre une République centrafricaine dont le PIB par habitant et par an est de l'ordre de $600 et le Luxembourg où il est de l'ordre de $110 000, on comprend qu'il y a un déséquilibre profond. Et on comprend que ces enjeux sociaux deviennent les enjeux majeurs, beaucoup plus que les missiles nord-coréens ou tout ce qui s'ensuit. Et donc, c'est cet enjeu-là nouveau qu'il faut savoir saisir. Le PNUD, dont c'était le travail, l'a fort bien compris, à l'initiative, il ne faut jamais l'oublier, de deux économistes du Sud, l'un très connu qui est l'Indien Amartya Sen, l'autre un peu moins connu, ce qui est injuste parce qu'il a joué un rôle très important, un Pakistanais, Mahbub ul Haq. Et tous les deux ont dit « mais attendez ». À mesure que s'opère cette mondialisation qui commence à dire son nom, on est en 1994, eh bien, la sécurité humaine l'emporte sur la sécurité nationale. Et le problème qu'a tout de suite saisi Kofi Annan, c'est comment adapter ce défi à l'ordre onusien tel que nous le connaissons. Je rendais hommage à Kofi Annan, je pourrais déjà associer son prédécesseur, Boutros Boutros-Ghali, qui avait écrit en 1992 un tout petit livre qui est passé presque inaperçu, qui est l'agenda pour la paix, dans lequel il disait « Attendez, maintenant les guerres, c'est essentiellement le résultat d'une injustice sociale. » Alors, on voit bien avec la question ukrainienne que ça n'épuise pas tout. Mais si vous vous tournez vers l'Afrique, qui est quand même le continent qui a été le plus marqué et qui reste le plus marqué par la conflictualité, parce que les conflits en Afrique, ça va pratiquement de l'Atlantique jusqu'au bassin du Congo et à la Corne de l'Afrique, eh bien vous voyez là l'intimité du lien qu'il y a entre cette déstructuration sociale du monde, ce que j'appelais le déséquilibre fondamental du monde, et la conflictualité. Et si vous regardez le grand Moyen-Orient, c'est-à-dire jusqu'au mont Pamir, vous retrouvez à peu près les mêmes paramètres. Mais attention, si vous allez vers l'Ukraine, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez quelque chose de tout à fait inédit, c'est-à-dire une guerre profondément réactionnaire, qui est la guerre poutinienne, c'est-à-dire effectivement reconstituer un ordre impérial territorialisé, c'est en cela qu'on s'éloigne de l'idée de déséquilibre dont je parlais tout à l'heure, mais on trouve en face une société qui souffre, et dont on s'aperçoit que les souffrances de cette société ukrainienne de plus en plus conduisent l'agenda international, relayé par les opinions publiques, relayé par les médias, relayé par les contre-coups économiques de cette guerre. Et qu'est-ce qu'on voit face à cela? Eh bien, M. Poutine, avec ses divisions, qui est complètement dépassé par cette conflictualité qu'il ne comprend même pas. Parce que personne ne sait ce qu'il y a dans la tête de Poutine, par définition, mais un politologue sait ce qu'il y a dans la tête d'un dictateur. Et dans la tête d'un dictateur, il y a une ignorance crasse du paramètre social, et même, on peut dire, du paramètre économique. Tout est politique. Et tout va se soumettre à la force. Ça, c'est le credo du dictateur. Ben, hé, ça marche plus.
Ça, c'est la grande surprise, la capacité de résistance de la population ukrainienne, qui peut-être aussi fait réfléchir la Chine à propos de Taïwan. Pour terminer cette émission passionnante, Jean-Vincent Lindre, en guise de conclusion.
Alors, Bertrand Badi va dire que je suis historien ici, mais enfin, la résistance des Ukrainiens tient à ce que disait Machiavel à propos de la résistance des sociétés, au sens où Machiavel dénonçait la guerre menée par les mercenaires à l'époque de la République de Florence, et disait que si la République de Florence voulait se défendre, elle ne pouvait le faire qu'à travers le modèle du citoyen-soldat. C'est ce qu'on observe ici en Ukraine.
Oui, mais ça n'a marché ni à Budapest ni à Prague. Non, justement, certes, c'est ça qui est intéressant.
Certes, mais les Ukrainiens résistent, non pas simplement parce qu'ils se réunissent ou qu'ils sont solidaires, c'est parce qu'ils veulent se battre, qu'ils sont mobilisés pour se battre dans cette guerre, certes réactionnaire, mais où ils veulent défendre leur nation en construction et qui n'a jamais été aux solidaires et unis que depuis ce conflit. Et aussi parce que les Occidentaux envoient des armes et forment les Ukrainiens, et que sans cette aide occidentale considérable et de plus en plus massive, là aussi avec une issue tout de même inquiétante, eh bien sans cette aide, les Russes, quand bien même ils sont à côté de la plaque, l'auraient emporté beaucoup plus facilement. Les deux principaux conflits des dernières années, c'est quand même la guerre en Syrie et la guerre aujourd'hui en Ukraine, qui sont des guerres extrêmement meurtrière et on ne peut plus réactionnaire au sens où Bertrand Badi l'a indiqué. Donc ça fait aussi partie du jeu. On a très peu parlé du climat. Ça, c'est peut-être un enjeu essentiel
on
aussi.
On en a parlé dans Géopolitique tout à fait récemment, et voilà. C'est vrai que l'ONU s'en occupe.
Non, mais je veux dire, le multilatéralisme, c'est aussi ça. C'est-à-dire, à un moment donné, de se dire qu'il y a des questions, pour le coup, inclusives, comme le climat, qui coexistent avec des problèmes classiques, anciens, comme celui des guerres classiques.
Merci Jean-Vincent Lindre. Je rappelle que vous avez d'abord co-dirigé l'ouvrage « Nations désunies, point d'interrogation, la crise du multilatéralisme dans les relations internationales » aux éditions du CNRS, collection Biblis, et que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris-Panthéon-Assas et co-directeur de l'annuaire français des relations internationales du centre Thucydide et directeur scientifique de l'IRSEM. Et Bertrand Badi, un grand merci également, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Puissance mondialisée au pluriel, chez Odile Jacob. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte.